Jean-Luc, pour débuter, nous allons maintenant évoquer les véhicules d'occasion. Comment ne pas se faire rouler en achetant un véhicule d'occasion ?
C'est sûr que c'est pas facile. Bon, il y a quand même 5 millions de voitures d'occasion qui se vendent chaque année. En général, on est plutôt heureux d'acheter une voiture, mais ça peut générer un peu de stress, en particulier parce qu'on est... On connaît pas forcément la fiabilité du vendeur. Si par exemple, je prends un exemple au hasard, vous avez Françoise de Paris qui vous vend une Fuego pratiquement neuve avec 5000 km qui date de 1980 en vous expliquant que l'entretien était toujours bien fait, que la voiture a zéro défaut. Bon, on peut se poser des questions, et quand on n'est pas un spécialiste, soi-même expert en automobile, c'est pas simple d'arriver à juger une voiture. Alors heureusement, on va pouvoir vous aider aujourd'hui, on va vous donner des bons conseils. Le premier, c'est peut-être de faire appel justement à un vrai expert automobile. Et l'ANEA, qui est l'Alliance Nationale des Experts en Automobile, a créé ce qu'on appelle le carré expert auto, qui vous permet d'être aidé dans l'achat d'un véhicule d'occasion par un vrai expert. Et Christophe Tay est avec nous, président délégué de l'ANEA, pour en parler.
Et puis juste après, nous aurons Thomas qui a une question.
Thomas, oui, une vraie question pour tout le monde.
Voilà, comme Thomas est un petit peu pressé, on va le retrouver dans un instant. Bonjour Christophe.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Bon, expliquez-nous ce que c'est que Carré Expert Auto.
Carré Expert Auto, c'est un produit qui permet aux automobilistes qui cherchent à acheter ou à vendre leur véhicule d'occasion de le faire labelliser, de labelliser par un expert en automobile, membre de l'Alliance Nationale des Experts en Automobile, qui est le premier réseau d'experts libéraux de France.
D'accord, alors concrètement c'est quoi ? Je veux acheter une voiture d'occasion, j'y connais rien, je fais appel à vous. Je m'inscris, comment ça se passe en ligne, sur Internet, il y a des experts dans toutes les régions de France. Comment je fais pour accéder à ce service ?
En fait, c'est très très simple. On peut le résumer en quatre étapes. La première étape, évidemment, c'est de contacter un expert en automobile qui, effectivement, se situera dans chaque département sur tout le territoire national. On a facilement un expert par département. Nous regroupons aujourd'hui 600 entreprises d'expertise. Et il y a forcément un expert près de chez vous. Donc le contact se fait simplement, soit au travers du site internet Carré Expert Auto, soit tout simplement en consultant dans l'annuaire sur internet et de trouver un expert en automobile proche de chez soi. Premier contact par téléphone, premier contact par mail, et ensuite en 48 heures, un expert se déplace et vient voir le véhicule que vous souhaitez vendre ou que vous souhaitez acheter.
Il vient avec nous, donc.
Il vient avec vous, ouais. Il vous accompagne, soit chez un acheteur, un vendeur professionnel, soit chez un vendeur particulier. Et puis, si vous êtes vous-même vendeur, il vient à votre domicile, ou alors on prend contact ensemble, on s'organise, on peut faire la visite et le premier examen d'expertise dans un centre de contrôle technique.
D'accord, donc.
Compléter la prestation.
D'accord. En fait, on peut, alors cet expert vient avec moi chez le vendeur, il vient chez François S qui me vend sa Fuego. On prend la Fuego, on va dans un centre de contrôle technique, c'est ça ? Si on veut vraiment analyser la voiture sous toutes ses coutures, c'est ce que vous faites ?
Absolument. Soit on intervient au moment où le contrôle technique doit être fait pour la cession du véhicule, hein, si ce véhicule doit subir les opérations de contrôle technique. Et même si c'est déjà fait, on s'organise, pourquoi pas, pour voir le véhicule chez un contrôleur technique qui pourra nous apporter, je dirais, les outils de levage, de contrôle, et évidemment aussi son expérience.
D'accord.
Donc finalement, c'est une prestation qui peut se faire très bien à domicile. Mais ce qui manquera, c'est l'élément essentiel du contrôle du soubassement du véhicule, qui reste quand même un des points critiques de l'usage d'un véhicule tout au long de sa vie. Donc
d'accord.
C'est pour ça que voir à domicile, on se coupe de la possibilité de contrôler le soubassement.
Ouais, vous avez combien de points de contrôle ? Est-ce qu'il y a un listing en fait que va remplir l'expert ?
Alors, nous avons sur ce carré expert auto, hein, cette expertise de l'achat et la vente de VO, une centaine de points de contrôle regroupés en 7 familles. Parmi les familles, alors évidemment la carrosserie, mais ça tout un chacun est capable de le faire, de regarder la carrosserie. Mais nous on va aller au-delà pour la carrosserie, on va regarder les antécédents, s'il y a eu une réparation, s'il y a quelque chose de masqué, ou si on peut avoir des doutes sur l'état du véhicule. Autre point à contrôler, c'est les documents, tout ce qui est documents administratifs. Malheureusement, il y a énormément d'arnaques chaque année, de véhicules qui sont vendus, dont la cession est faite, et lorsqu'on arrive en préfecture, enfin maintenant à distance, et qu'on veut faire les papiers, il manque un document n'est pas valide. Donc les documents, la carrosserie, l'habitacle, qui est très important, surtout avec les véhicules équipés d'ADAS, il faut vérifier que tous les équipements fonctionnent correctement. Hein, les pneumatiques, c'est évidemment, le soubassement, j'en ai parlé, et bien sûr la mécanique. Donc il y a l'état de visuel et le véhicule. Et même si on veut, on peut proposer au vendeur ou à l'acheteur ce qu'on appelle le bilan santé moteur, qui est tout simplement une prise de sang, finalement, de la voiture.
Oui, l'analyse d'huile. On va en parler dans un instant. On a Thomas avec nous avant.
Bonjour Thomas.
Bonjour Thomas.
Oui, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour François. Merci de prendre mon appel. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu compliqué parce que je suis au départ d'un marathon.
Ah oui.
Il y a peut-être un petit peu de bruit partout. Voilà, je m'excuse. Le départ est dans quelques instants.
Donc, alors, allez-y, posez vite votre question.
Je me dépêche. J'ai acheté un véhicule d'occasion, un 3008 essence de 2011. J'ai acheté là, ici, en janvier dernier. Quand je l'ai acheté, en fait, dans les documents de suivi, j'ai vu qu'il y avait quelques soucis, mais qu'avait tout été réparé. Et je l'ai quand même tout de même acheté parce qu'en fait, le véhicule correspondait à ce que j'avais besoin. Et puis, très rapidement, j'ai eu des soucis avec le véhicule qui consommait beaucoup de fuel. Je suis retourné plusieurs fois au garage et le garagiste m'a toujours dit c'est normal, le turbo qui consomme. Bon, soit. Et puis là, dernièrement, en vacances, panne sur l'autoroute. Dépanneuse, assistance, femme et enfant, enfin, je vous passe tous les détails, et du coup, mon véhicule est parti chez Peugeot cette fois-ci. Et quand j'ai récupéré mon véhicule chez Peugeot, le garagiste m'a dit qu'en fait, mon véhicule faisait l'objet d'un rappel moteur, en fait, d'un rappel constructeur pour changement de moteur. Rappel constructeur dont je n'étais pas du tout au courant, et donc, du coup, je suis retourné voir le vendeur professionnel qui l'avait vendu pour demander qu'il me reprenne mon véhicule, parce que dans ces conditions-là, je ne l'aurais pas acheté. Ce qu'il refuse, bien évidemment. Donc du coup, je voulais savoir si je pouvais faire, dans ce cadre-là, jouer la garantie légale contre les vis cachées.
Alors, déjà, normalement, Peugeot doit vous prendre en garantie cette panne moteur. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'ancien propriétaire a dû être prévenu par lettre commandée du rappel, et le fait qu'il n'ait pas fait faire la modification, c'est ça qui est étonnant quand même. Donc, sur l'historique du véhicule, là, il y a quelque chose de pas clair. D'ailleurs, Christophe, l'expert peut vous apporter en plus un éclairage sur l'historique des véhicules, parce que là, on parle d'un rappel qui n'a pas été fait, qui était important, puisqu'a priori, le remplacement du moteur, c'est pas anodin quand même. L'expert qui vient vous aider à l'achat d'un véhicule, lui, peut avoir accès à ce genre d'informations.
Oui, absolument, et c'est la grosse plus-value de faire appel aujourd'hui à un expert en automobile diplômé d'État, c'est que l'expertise qui va être réalisée va pas simplement concerner, je dirais, le véhicule tel qu'il est, mais on va regarder, alors ses antécédents, j'en ai parlé, mais aussi son historique chez le constructeur, s'il y a eu des rappels, si les rappels ont été faits, et quels sont les points d'attention à faire. Le contrôle technique est un élément, je dirais, un levier réglementaire est très important. Hein, et dont
là, on peut avoir l'historique du contrôle technique. L'expert, lui, peut l'avoir facilement, parce que quand on demande, tout à l'heure, j'ai parlé de l'OTC et la possibilité par Internet aujourd'hui de demander l'historique des contrôles techniques. On a un auditeur sur Direct Studio qui nous a dit oui, mais ils vous donnent que le dernier contrôle technique. Ils veulent pas, ils considèrent que c'est de la confidentialité les précédents contrôles techniques. Alors ça doit être limpide. Un expert, lui, a accès à absolument tout l'historique.
Eh bien, malheureusement, on risque de vous décevoir. Non, on a accès...
Eh oui, que au dernier aussi.
Au dernier, et encore, nous, on peut même plus le demander. Il faut qu'impérativement, ce soit le propriétaire actuel qui demande le dernier contrôle technique. Oui, c'est hallucinant. C'est très compliqué, mais nous avons, dans le cadre de nos analyses de documents et de nos compétences, la possibilité de remonter au travers l'histoire du véhicule, de récupérer les contrôles techniques. Mais j'allais dire que au-delà du contrôle technique, ce qui est très important, c'est de vraiment scanner, si je peux m'exprimer comme ça, scanner l'intégralité du véhicule, de son historique, de son état. Et grâce à ça, on aurait pu dire à votre auditeur, attention, ce véhicule a fait l'objet d'une campagne de rappel. En plus, sur ces véhicules-là, on les connaît bien, les problèmes de moteur et de turbo. Vérifions ensemble que le moteur a bien été remplacé ou que l'organe a été bien.
D'accord.
Bien
et été dans le cas de Thomas, justement, il peut faire quoi? Il se tourner vers le vendeur professionnel qui lui a vendu le véhicule, l'ancien propriétaire ou Peugeot?
Dans le cas de Thomas, ce qui est étonnant, et vous l'avez dit, c'est forcément l'ancien propriétaire, à un moment ou à un autre, s'il s'agissait d'une campagne de rappel, a dû être contacté par le constructeur, par voie recommandée. Il s'agit juste d'un remplacement de moteur, qui est quand même une opération très lourde, mais forcément, une fois le moteur remplacé, le véhicule reviendra en conformité. Mm-hmm. Moi, je pense que le plus simple pour Thomas, c'est de contacter son vendeur, si c'est un vendeur professionnel, bah peut-être de lui rappeler la règle d'or qui est la conformité du bien acheté, c'est-à-dire que le véhicule doit être conforme à son usage.
D'accord. Merci Christophe, vous restez avec nous. On poursuit, hein, vous l'avez compris ce matin, on évoque les véhicules d'occasion. Comment ne pas se faire rouler en achetant un véhicule d'occasion avec nos invités. Et on retrouvera aussi Patrick qui, alors lui, est dans l'autre, de l'autre côté en fait de la ligne, si je puis dire, puisqu'il aimerait bien vendre une voiture. Et il a du mal visiblement à la vendre sa voiture. Il va nous expliquer pourquoi et comment on pourrait l'aider.
On peut sécuriser finalement. Justement, c'est vrai que un avis d'expert pour la vente d'un véhicule, ça peut être intéressant.
Voilà, et peut-être que Christophe pourra l'aider.
RMC, le week-end des experts, 7h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau.
Il est pile 9h30, merci d'être là. Le week-end des experts, l'automobile, on est là jusqu'à 10h avec Jean-Luc. Et à 10h, vous retrouverez, bien entendu, les GG du sport. Dans quelques minutes, on évoquera les vélos électriques. Comment profiter du vélo en toute sécurité? Ce sera avec notre invité. Mais auparavant, on évoque ensemble, eh bien, les véhicules d'occasion. Jean-Luc, comment ne pas se faire rouler en achetant un véhicule d'occasion? Et là, c'est intéressant parce que on a Patrick qui est, on va dire, de l'autre côté du miroir, en quelque sorte. Il aimerait bien vendre son véhicule et visiblement, il a du mal. Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Salut les experts.
Bienvenue Patrick. Alors, on vous écoute. Merci. On vous écoute.
Voilà, j'ai une Alfa Romeo Mito de 2010, 1 litre 4 essence, que j'ai acheté en 2014. Et je roule très peu avec. Elle a 25 000 maintenant.
D'accord.
Et quand j'essaye de la vendre, ben, y a le petit souci du, c'est pas trafiqué, vu qu'elle est de 2010 et qu'elle a si peu de kilomètres, quoi.
D'accord. Donc vous voudriez, bah tiens, on va demander à Christophe. Christophe, typiquement, là, on a un exemple concret de quelqu'un qui a un véhicule dont l'historique semble limpide, mais qui a du mal à justifier que justement la mariée est trop belle. Alors ça peut avoir de l'intérêt pour lui de se faire assister par un expert. Est-ce qu'il aura un document après qui pourra prouver ses dires?
Oui, absolument. Là, il s'agit de faire appel à l'expert en tiers de confiance, hein, puisque vraiment c'est le terme que l'on emploie régulièrement et qui va pouvoir attester grâce à un rapport d'expertise qui reprendra l'ensemble des 100 points de contrôle et des sels de famille. Que le véhicule a bien le kilométrage qui est annoncé.
Donc 26 000 kilomètres en 8 ans, c'est vrai que c'est pas beaucoup.
Ah, c'est pas beaucoup, mais ça arrive. Et puis effectivement, ce qui se passe, et ce qu'on peut comprendre avec le nombre d'arnaques et de fraudes qu'on a au kilométrage trafiqué, c'est la suspicion d'un acheteur potentiel en se disant c'est pas possible qu'une Alfa Romeo 2010 ait si peu de kilomètres. Mais l'expert, lui, dans le cadre de sa mission, va analyser les documents, va analyser le véhicule, va faire une recherche d'antécédents et pourra attester au travers d'un rapport, ce qui fait que notre auditeur pourra, lors de la transaction, dire « voilà le véhicule qui est à vendre, voilà le rapport d'expertise, voilà ce qu'a vu l'expert et ce qui est attesté en conformité avec le rapport d'expertise ».
Ça coûte combien de faire appel à un expert comme ça, indépendant, quand on veut vendre ou quand on veut acheter un véhicule?
Dire que la prestation est à partir d'une centaine d'euros TTC.
C'est pas excessivement cher.
Non, c'est pas excessivement cher. C'est une véritable garantie qui permettra au vendeur et à l'acheteur de trouver de la sérénité, de la simplicité, évidemment de la transparence. Hein, on vient d'en parler par rapport au kilométrage. Et puis surtout, c'est une proximité très importante puisqu'il y a un expert automobile dans chaque département de France qui est à la disposition des automobilistes pour les aider dans l'achat ou dans la vente de leur véhicule d'occasion.
Patrick, vous la vendez combien, votre Mito?
Là, faudrait que je la recote. Je sais que c'était aux alentours des 11 000 euros.
11 000 euros, profitez-en, hein, vous êtes à la radio. Alors, donc, il y a une Mito à vendre. Quelle couleur?
Elle est blanche.
Elle est blanche. Blanc. 2010, 26 000 kilomètres.
1 litre 4, 155 chevaux.
Entretien fait, tout fait. Bon, ça va peut-être intéresser quelqu'un, on en profite.
Et puis, l'expert en automobile, si je peux rajouter un élément important, l'expert automobile peut aider aussi à l'évaluation de la bonne cote, effectivement, du véhicule, puisque l'expert automobile est le seul professionnel habilité à évaluer un véhicule dans sa valeur, la valeur à dire d'expert.
D'accord.
Donc, ça peut donner un conseil pour faciliter la vente.
Oui.
Merci, Patrick. J'aimerais, Jean-Luc, qu'on évoque maintenant l'analyse d'huile. On l'a évoqué régulièrement dans ce rendez-vous auto.
C'est la prise de sang.
On peut faire une prise de sang.
Ouais, c'est la prise
véhicule.
De sang de la voiture. Bon, on a un spécialiste avec nous. On a Guillaume Lefort qui est le directeur général d'Easylease, donc une société qui fait de l'analyse d'huile. Bonjour Guillaume.
Bonjour François. Bonjour Jean-Luc. Bonjour.
Alors l'analyse c'est en complément en fait de ce qu'on vient d'évoquer avec Christophe. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut faire. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir quand on fait une analyse d'huile? C'est comme une prise de sang, c'est ça?
Alors, l'analyse d'huile, effectivement, c'est un bilan de santé du moteur, c'est une prise de sang. On peut vraiment faire le parallèle avec avec nous quand on va faire une prise de sang pour voir si on va bien.
D'accord. On y voit quoi dans cette analyse d'huile? Bon, déjà, est-ce que l'huile utilisée est une huile appropriée au moteur? Parce que il peut y avoir des arnaques aussi. Il y a des professionnels qui, pour faire des économies, mettent pas l'huile préconisée par le constructeur.
Exactement. Vous avez des constructeurs, enfin des pas des constructeurs, pardon, des garages, des concessionnaires qui, pour des intérêts peut-être économiques, vont pas mettre forcément l'huile qui est préconisée, mais vont mettre l'huile qui leur coûte peut-être le moins cher à un moment donné. Oui.
C'est essentiel, Guillaume, de mettre l'huile réellement préconisée par le constructeur, parce que quand vous allez dans les centres auto, parfois on vous dit ah ben nous on l'a fait avec cette huile-là, elle est très bonne, elle est aussi bonne que celle que le constructeur recommande.
Alors, c'est impératif de suivre la préconisation du constructeur, c'est-à-dire à la fois sur la norme de viscosité, alors à titre d'exemple, une 5W40, une 10W40, donc ça c'est impératif, mais aussi bien sur la norme de qualité qui va être derrière, que l'on peut avoir dans les manuels d'entretien des voitures, par exemple une 5W40 A3B4.
D'accord.
C'est des normes.
Ouais, ouais, ouais. Ça, donc même si on n'y connaît rien, faut vraiment respecter scrupuleusement ce qui est sur le carnet d'entretien ou ce qui est préconisé par le constructeur. On peut le trouver sur Internet. Parce que par exemple, vous parliez de viscosité, on peut avoir une 5W40, deux 5W40 qui n'ont pas les mêmes propriétés en fait.
Exactement. Vous pouvez avoir deux 5W40 qui n'ont pas la même norme, c'est-à-dire que qui n'ont pas les mêmes caractéristiques.
Et alors, est-ce que, ouais, une fois qu'on a, bon, on sait que c'est le bon lubrifiant, est-ce que dans l'analyse d'huile, on peut découvrir, par exemple, on parlait du moteur de l'Alfa Romeo, là, 26 000 km. Mm-hmm. Est-ce que l'analyse d'huile peut me dire si oui ou non ce moteur a vraiment 26 000 km ou s'il en a 5 fois plus?
Alors non, une analyse d'huile ne permet pas et ne permettra jamais de déterminer un kilométrage. Pour une raison très simple, c'est que le kilométrage d'une voiture n'est pas le reflet d'usure ni de fonctionnement d'un moteur. Je vais prendre un exemple assez simple. En une heure de fonctionnement moteur sur autoroute, vous allez faire à peu près 130 km. Mais en une heure de fonctionnement moteur sur le périphérique parisien, quand vous allez au travail le matin, vous allez faire que 20 km. Donc si on multiplie cette chose-là sur des milliers de kilomètres, on va avoir des écarts énormes. Donc c'est impossible de déterminer un kilométrage avec une analyse.
D'accord. Alors Guillaume, nous avons
un autre Guillaume
qui justement a une question sur ce sujet de justement d'analyse d'huile. Bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume.
Bonjour tout le monde. Alors en réalité, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque, un retour d'expérience, parce que j'ai travaillé dans le domaine de l'analyse d'huile dans le cadre de mon travail. Je travaille pour un distributeur de matériel de travaux publics, Caterpillar pour pas le citer.
D'accord.
Et en termes d'analyse d'huile, il a toujours été dit qu'il faut, pour déterminer, si vous voulez, on cherche pas à déterminer un niveau d'usure, mais plutôt une tendance, et qu'il faut au moins avoir 3 analyses d'huile pour savoir où on en est, parce que on va chercher des particules par million de fer, d'aluminium, de chrome, de tout ce qu'on veut d'ailleurs, mais par exemple, on a 100 ppm de fer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est trop, c'est pas assez? Est-ce que ça va augmenter dans le temps? De quelle façon? Enfin, c'est relativement compliqué. Et si vous voulez, une seule analyse d'huile ponctuelle et isolée, j'ai quelques.
Ouais, ne sert pas grand chose. Ne sert pas grand chose à votre avis.
Ça sert pas à grand chose. Bon, on va demander.
Non, je dis pas que ça sert pas à grand chose, mais disons qu'on n'a pas de référentiel et on ne sait pas vers où on va.
Ça a un sens on les fait régulièrement, c'est ça, c'est pour vous.
Voilà.
Guillaume.
Bah, Guillaume, vous répondez à Guillaume.
on va se répondre mutuellement.
Allez-y.
Alors, non. Alors, oui et non. C'est-à-dire
ça, c'est une bonne réponse.
Oui et non, oui, voilà. Donc, effectivement, si on suit une machine, une voiture, un avion, enfin, peu importe, dès qu'on suit on va suivre un moteur dans le temps, on va faire plusieurs analyses d'huile, on va avoir une grande précision. Si on fait qu'une analyse ponctuelle, on va quand même avoir un indicateur très important, puisque votre Guillaume, en l'occurrence, nous disait 100 ppm de fer, à quoi ça correspond? Eh ben, on va être capable, en fonction de l'usage, que la personne a de la machine ou de la voiture, de vous dire si c'est quelque chose qui est pas normal.
D'accord.
Parce qu'on a aussi des référentiels d'autres moteurs, d'autres voitures,
Oui, c'est ça. C'est parce que vous avez l'expérience en fait quand vous des moteurs similaires. En fait, beaucoup d'analyses d'huile, j'imagine, de moteurs de voiture chaque année. Et donc, vous savez à peu près où sont comment on est dans les clous. Un peu comme quand on fait une prise de sang, on a à côté, même si nous on n'y connaît rien, en fonction de la valeur qui est donnée, on nous dit bah voilà, c'est bien entre ces valeurs-là, vous les avez aussi vous.
Alors, on ne donne jamais les fourchettes, si vous voulez.
D'accord.
On met une notation qui va de 1 à 5. 1 en étant bien, 5 étant mauvaise. Et puis, on va reprendre le commentaire en diagnostic en bas pour dire, bon, vu votre usage, vu l'usage qui est fait du véhicule, cette valeur qu'on va retrouver de fer est absolument... est beaucoup trop élevé pour l'usage, pour la moyenne.
Comment ça se présente? Est-ce qu'on arrive avec sa seringue au moment où on va acheter la voiture? Combien ça coûte une analyse d'huile? Combien de temps ça prend? Parce que si moi j'arrive chez François avec ma seringue, bon déjà il va avoir peur. Je vais lui dire, alors déjà comment on prélève l'huile? Première question. Est-ce que c'est un kit que vous envoyez? Est-ce qu'on vous le renvoie? Combien ça coûte? Combien de temps pour avoir la réponse? Ça en fait des questions.
Ça en fait des questions, mais en fait c'est très très simple. Il suffit d'acheter le kit internet sur le site internet, hein, tout simplement.
Ouais,
le kit de prélèvement, sur le site internet. Vous le recevez chez vous, vous le gardez dans
votre poche. Ça coûte combien le kit?
Alors ça coûte, l'analyse coûte 69 euros TTC.
D'accord, avec le kit.
Avec le kit.
D'accord. Bon, c'est pas onéreux.
Non, vous avez le kit de prélèvement sur vous, vous allez faire vos visites de véhicule, et quand vous avez une voiture qui va vous plaire, et ben là vous allez
prélever
le kit. Voilà.
Donc il y a un petit tuyau, on le met par l'orifice de remplissage d'huile, c'est ça ou
L'orifice de remplissage d'huile ou l'orifice de la jauge de niveau.
De la jauge, d'accord.
Sur Direct Studio, messieurs, une question intéressante. J'ai entendu dire que lors d'un achat d'un véhicule d'occasion, il fallait se méfier de ceux qui n'ont pas beaucoup de kilomètres, mais beaucoup d'années. Est-ce que c'est vrai? Autrement dit, vaut-il mieux privilégier une voiture récente avec beaucoup de kilomètres ou une voiture plus vieille aux kilomètres faibles?
Non,
c'est
la vraie
question.
Mais la vraie question,
si on doit acheter une voiture d'occasion, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut privilégier?
La vraie question. Alors, il vaut mieux privilégier une voiture qui a peu de kilomètres.
Christophe est toujours avec nous.
Quoi qu'il arrive,
peut-être qu'il peut nous répondre.
Mais la vraie question, c'est aujourd'hui, on arrive à trafiquer les compteurs. Est-ce que Christophe, on arrive aujourd'hui à déceler facilement les compteurs qui ont été bidouillés pour diminuer évidemment les kilométrages?
Alors, c'était pas tout à fait la question de notre auditeur.
C'était pas tout à fait, mais
peut-être qu'elle peut être complémentaire.
C'est un complément, en effet. Alors, de dire il faut privilégier le nombre d'années au kilométrage, j'en suis pas certain, parce que beaucoup de kilométrages, de véhicules sous-kilométrés sont pas forcément des véhicules en bonne santé.
C'est-à-dire que pour vous, vaut mieux une occasion de 2 ans avec 100 000 kilomètres, j'ai n'importe quoi.
Tout dépend du... Non, mais là, il y a plein de questions.
Non,
en fait,
d'une manière,
si c'est quelqu'un qui n'a fait que de l'autoroute, oui, une voiture à fort kilométrage sera pas un problème. Mmh. Si c'est quelqu'un qui a fait que de la ville, là, oui, ça
devient... Oui, on peut imaginer qu'en 2 ans, s'il a fait 100 000 kilomètres, c'est beaucoup d'autoroutes.
Ou alors, il fait du périphérique 24-24.
Bah, tout va dépendre aussi de la... Enfin, tout est affaire d'analyse par rapport aussi à la motorisation. Je veux dire, aujourd'hui, un taxi diesel qui fait que du centre-ville et qui aura 200 000 km en 2-3 ans, l'intérieur du moteur avec les systèmes de dépollution vont faire que ça va pas être un moteur en très très grande forme. Par contre, quelques véhicules qui feront 200 000 km en 2 ans, mais effectivement que sur du ruban autoroutier où on est toujours en charge, on est toujours... en pleine performance des systèmes de dépollution, toujours sur les véhicules diesel, bah là c'est un véhicule qui est rodé. Par contre, vous prenez la petite voiture du papy ou de la mamie qui n'a pas roulé depuis 10 ans et qui est donnée au petit-fils, petite-fille parce que bah il a eu son permis. En général, j'ai d'expérience, c'est des véhicules qui vivent très mal ce changement propriétaire.
Ouais, c'est ça.
Alors pas que parce que il peut y avoir un côté accidentogène du fait de l'inexpérience. Non, pas du tout. Simplement parce que la boîte de vitesse, le moteur, tout ça a besoin de fonctionner. Tout ce qui c'est un peu comme pour rester sur la métaphore liée au corps humain avec la prise.
Oui, c'est vrai que si on reste au lit toute la journée, on n'est pas en forme.
Voilà. Et donc forcément, à un moment où vous allez vous décider, après d'être resté au lit pendant 10 ans, de faire un marathon, parce que ça se passera comme ça avec un changement de propriétaire potentiellement, et vous allez avoir des problèmes. Donc là, oui, effectivement, il faut analyser sur la globalité. Mmh. C'est pour ça que l'accompagnement d'un tiers de confiance comme des experts peut permettre justement cette lecture.
D'accord.
Après, concernant la modification de kilométrage, c'est effectivement et malheureusement extrêmement facile de modifier
le kilométrage.
Je ne vais pas encourager vos auditeurs à le faire, mais il suffit d'aller sur quelques pages de moteurs de recherche sur Internet et vous allez trouver pour moins de 1000 euros des systèmes qui permettent de baisser ces kilométrages. Et là encore, c'est très difficile à déceler, c'est très difficile à analyser, même en concession, les équipements de contrôle diagnostique, de valise, d'informatique, branchés sur les prises OBD, ont du mal d'un premier regard à rentrer dans la conformité. Au contrôle technique, c'est même pas analysé, cette conformité, parce que ça ne fait pas partie encore des obligations.
D'accord.
Donc là, seulement l'expert en automobile, lorsqu'il contrôlera en tiers de confiance son véhicule, pourra justement dire là il y a un loup, ou là non, il n'y a pas de loup, mais c'est un véhicule qui a très peu roulé, donc on va faire une analyse d'huile. Alors, comme je le disais, cette prestation de contrôle que l'on appelle chez nous bilan santé moteur, c'est une analyse qui se fait par l'expert. Quand l'expert vient voir votre véhicule, il a son kit de prélèvement avec lui, il vérifie soit la boîte, soit le moteur, soit les deux éléments. Il envoie ça dans un centre de contrôle, indépendant, qui est situé...
Et après, il interprète ses résultats.
Résultats, et puis ça s'intègre dans la prestation globale. Alors la prestation unitaire chez nous, elle est à 40 euros, mais elle est intégrée dans une prestation globale d'évaluation du véhicule.
Christophe Teuil, merci beaucoup.
Merci Christophe.
Jean-Luc, 10 ans, moi.
Merci Guillaume également.
Merci à Guillaume, oui. Très intéressant. On...